Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous continuons le chapitre 12 de Saint Matthieu. Nous sommes à la page 15. Du polycopié, troisième polycopié, donc polycopié qui contient les explications des pères sur les chapitres 11 à 15 de Saint Matthieu. Alors, voilà le texte où nous en sommes, en haut de la page 15, au verset 41. Donc, d'abord verset chapitre 12 de Saint Matthieu, verset 41-42. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement contre cette génération et la condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Donc, notre Seigneur donne les exemples de conversion. Les hommes de Ninive se sont convertis à la prédication de Jonas. Jonas faisait le tour de la ville de Ninive, et dans les rues de Ninive, il annonçait la destruction de Ninive si les gens ne se convertissaient pas, et tout le monde s'est converti. Et Ninive n'a pas été détruite. Voilà ce que disent les pères, donc ils font une allusion, comme notre Seigneur, à la reine du Midi. La reine du Midi, c'est une reine prestigieuse qu'on appelle aussi parfois la reine de Saba. La reine de Saba, elle était très connue, la tradition dit qu'elle était une des épouses de Salomon. Donc elle était venue d'Afrique, d'Éthiopie. Elle était venue avec une cargaison de toute une caravane de dromadaires chargée d'épices, d'aromates et de pierres précieuses. Et elle était venue attirée par la réputation de gloire et de sagesse de Salomon. Et donc elle est venue interroger Salomon et elle a expressément dit qu'en parlant avec Salomon, elle n'avait pas été déçue, qu'il était encore plus sage et plus glorieux que tout ce qu'elle avait entendu sur lui. Et la tradition dit qu'elle est devenue une de ses épouses et qu'elle eut de lui un fils dont tous les rois d'Éthiopie descendent. C'est une tradition qui est assez ancrée. Certains historiens pensent que cette reine de Saba venait plutôt d'Arabie, mais la tradition parle plus de reine d'Éthiopie que d'Arabie. Ça correspondrait d'ailleurs plus avec le texte qui parle qui était venue de très loin, des extrémités de la terre, et l'Éthiopie est beaucoup plus éloignée de Jérusalem que l'Arabie Saoudite. Donc cette reine de Midi condamnera le peuple juif, disent les pères, de la même manière que les Ninivites condamneront les Israélites incrédules. Les Israélites incrédules n'ont pas voulu se convertir alors que les Ninivites, qui étaient des païens pourtant, se sont convertis. Donc Dieu sera beaucoup plus sévère avec le peuple hébreu qui refuse de se convertir qu'avec des païens qui se convertissent, c'est évident. Donc les Ninivites et la reine de Saba, qui sont tous les deux invoqués par notre Seigneur Jésus-Christ dans ce texte, sont les figures des nations qui ont embrassé la foi et qui ont été préférées au peuple d'Israël. Donc notre Seigneur Jésus-Christ avait préparé d'une façon toute spéciale le peuple hébreu, peuple, pour une fois, peuple choisi de l'Ancien Testament, pour les préparer à accepter le Messie, mais lorsque le Messie est arrivé, ils l'ont refusé, ils l'ont crucifié, donc Dieu est allé chercher un remplacement, en quelque sorte, pour ce peuple élu de l'Ancien Testament, qui, refusant notre Seigneur Jésus-Christ, ne pouvait être élu pour le Nouveau Testament, puisque tout le Nouveau Testament est centré sur notre Seigneur. S'ils refusent notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne peuvent pas être, évidemment, membres de ce Nouveau Testament. Et donc, ils vont être remplacés par un nouveau peuple élu, le peuple des catholiques et le peuple des convertis, surtout. Et là, ces deux mots, donc la reine du Midi d'une part, les habitants de Ninive qui se sont convertis, justement, représentent cette substitution historiquement extrêmement importante du peuple juif par le peuple, le nouveau peuple élu, le peuple du Nouveau Testament. Il faut quand même pas oublier non plus que saint Paul, je l'ai déjà dit souvent, mais ça c'est des choses qu'on a tendance à oublier, saint Paul parle de la conversion d'un reste du peuple juif à la fin des temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, mais si les peuples juifs et refusent la conversion, évidemment, ils seront méprisés par le bon Dieu, mais s'ils se convertissent, à ce moment-là, ils vont retrouver, en quelque sorte, la prérogative de l'Ancien Testament, à condition qu'ils se convertissent à la foi catholique, bien entendu. Donc, Rabban Mor, un autre père, a une autre explication en disant que les Ninivites représentent ceux qui renoncent au péché. La reine de Saba, ceux qui ne connaissent pas le péché, car la pénitence efface le péché, mais la sagesse apprend à l'éviter. Évidemment, beaucoup mieux de suivre la voie d'innocence pour ceux qui ne connaissent pas le péché que la voie de pénitence pour ceux qui ont malheureusement connu le péché et qui doivent évidemment faire pénitence pour effacer ce péché. Donc, ces deux convertis, si vous voulez, ceux qui se convertissent après le péché par la pénitence, et ceux qui se convertissent et qui n'ont pas besoin de faire pénitence, ils n'ont jamais péché, qui sont dans la voie d'innocence, sont présentés justement par la reine du Midi, la reine de Saba et les Ninivites. Il y a deux voies, c'est ce que dit Arsène tous les pères. Il y a deux voies pour aller au ciel, ou la voie d'innocence ou la voie de pénitence. Strictement parlant, dans la pratique, la voie d'innocence n'est ouverte qu'aux bébés qui meurent après le baptême, c'est tout. Aux enfants qui meurent après le baptême sans avoir atteint l'âge de raison, donc ils n'ont pas encore commis de péché, parce qu'il faut avoir l'âge de raison pour commettre un péché, il faut qu'il y ait connaissance et consentement pour qu'il y ait péché ou un péché grave, et donc la voie d'innocence est fermée au premier péché mortel. Dès qu'on a commis le premier péché mortel, même si on va s'en confesser tout de suite, la voie d'innocence est fermée pour nous, il faut prendre la voie de pénitence. Autre texte de Saint Rémy, cette fois-ci, page 15, sur le polycopier. La reine, le nom de reine, représente aussi l'Église. L'Église est reine, parce qu'elle sait diriger sa conduite. C'est la reine du Midi, parce qu'elle est pleine du feu de l'Esprit-Saint. Le vent brûlant du Midi est une figure de l'Esprit-Saint. Salomon, dont le nom signifie le pacifique, représente celui dont il est dit, c'est lui qui est notre paix. Et un texte dans les psaumes, psaume 44, la reine s'est tenue debout à votre droite. Donc la reine qui conduit au roi. Alors il y a toute une série de comparaisons qui sont remarquables, sur lesquelles les pères de l'Église insistent. J'en ai mis ici quelques-unes. Entre Jonas d'une part, le prophète, et le Messie. Donc Jonas est un des petits prophètes de l'Ancien Testament qui représente le Messie. Il annonce le Messie comme tous les prophètes. Donc Jonas était un prophète et un serviteur, le Christ au contraire fut Messie et Seigneur. Jonas resta vivant dans le poisson et en sortit vivant, représente le Christ qui ressuscite de la mort et du tombeau, puis rendu à la vie en sortie. Donc de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de la même façon notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort le vendredi saint, est resté 3 jours dans le sein de la terre, dans le tombeau, pendant que son âme descendait aux enfers pour visiter les patriarches de l'Ancien Testament qui étaient morts en état de grâce et qui attendaient la résurrection de notre Seigneur pour monter au ciel, puisque le ciel était fermé depuis la mort d'Adam, depuis Adam et Ève. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, par ses 3 jours dans le tombeau, si vous voulez, met en avant, pratique en quelque sorte la prophétie qui était représentée par Jonas, qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson et qui en sort vivant. Jonas prêcha contre sa volonté, puisqu'il avait commencé par s'enfuir, était parti sur un bateau, et puis le bon Dieu a fait venir une tempête épouvantable contre le bateau, parce que justement Jonas s'enfuyait, et les matelots épouvantés ont tiré au sort, ont fini par se rendre compte que c'était Jonas qui provoquait cette tempête en refusant d'obéir à son Dieu. Et donc il le jette à la mer, il est avalé par le poisson, qui va le ramener sur le rivage, et le rejeter vivant sur le rivage, et à ce moment-là il va obéir à Dieu, contraint et forcé par les circonstances, pour aller prêcher la destruction de Ninive et demander sa conversion pour éviter cette destruction. Jonas fut un étranger parmi les Ninivites. Le Christ, lui, était au contraire de la même race que les Juifs. Jonas menace Ninive de la destruction. Le Christ, au contraire, promet le royaume du ciel. Jonas ne fit aucun miracle. Le Christ en fit beaucoup. Personne ne prophétisa Jonas, mais tous les prophètes prophétisèrent le Christ. Jonas cria encore 40 jours et Ninive sera détruite. Donc il se promenait dans la rue de Ninive simplement en répétant toujours la même phrase. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Sous-entendu, si vous ne vous convertissez pas et changez pas de vie. Et au début, tout le monde l'a pris pour un fou. Et puis au bout d'un certain temps, les gens ont dit, mais attendez, c'est un prophète, c'est Dieu qui parle là par sa bouche. Et donc ils sont convertis, tout le monde s'est mis à jeûner, y compris les animaux. Et du coup, la ville de Ninive n'a pas été détruite. Le Christ, lui, dit à ses apôtres, encore 40 ans et Jérusalem sera détruite par Titus en l'an 70. On avance avec les versets 43 à 45 du chapitre 12 de saint Matthieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il erre dans les lieux arides cherchant le repos et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y revenant, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et entrant dans la maison, ils y habitent. Le dernier état de cet homme devient pire que le premier. C'est ce qui arrivera à cette génération très mauvaise. Bon, ça, c'est un texte très important qu'il faut bien comprendre parce que c'est un peu notre histoire. Lorsque nous sommes dans l'état de péché mortel, le démon habite en nous, c'est évident. Nous sommes des membres de la communauté du démon si nous sommes en état de péché mortel. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Il n'y a pas simplement que celui qui est en état de péché mortel qui est membre de la communauté du démon, mais aussi toute personne qui n'est pas baptisée en tant que telle, sauf une personne qui a un baptême de désir, au moins implicite. Mais quelqu'un qui, un enfant, un bébé, avant son baptême, appartient au démon. On a un mal fou à comprendre ça. On trouverait même peut-être, si on réagit de façon naturelle, que c'est injuste, puisque le bébé n'est coupable d'aucun péché. Et le péché originel est en train à marquer cette âme de ce bébé. Donc, quand le bébé n'est pas baptisé au début du baptême, avant au début des cérémonies du baptême, avant l'ablution qui fait de ce bébé un enfant du bon Dieu, eh bien, le bébé appartient au démon. Et au moment précis où l'eau coule sur le front de l'enfant et que le prêtre dit les paroles consacrées, les paroles sacrées, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le démon s'en va, quitte cette âme, et l'Esprit Saint prend la place. Et donc, il faut avoir la foi pour justement accepter tout ça. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères, en page 16, sur le polycopier, sur cette phrase, ce passage plutôt. Donc, l'esprit impur est sorti d'un homme après une conversion. L'esprit impur, il ne sort pas tout seul. Hein. Si dans une maison où il est accueilli, il reste dans la maison. Et puis, lorsque le propriétaire de la maison commence à regretter sa vie et cherche à se convertir, le démon fait tout pour empêcher cette conversion. Mais si la conversion arrive, par une bonne confession par exemple, le démon est obligé de sortir. Mais que va-t-il faire?
il sort et puis il se retrouve tout bête parce qu'il a plus d'endroit où aller. Alors il retourne, il cherche à retourner dans la maison qu'il vient de quitter, dans l'âme qu'il vient de quitter, et il la trouve, dit le texte sacré, vide, balayée et ornée. Alors il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ça représente les sept péchés capitaux, on va voir ça tout à l'heure. Et il cherche à rentrer dans la maison. Et s'il peut rentrer de nouveau dans la maison qu'il avait quittée auparavant, l'état de cette maison, l'état de cet homme devient pire que le premier. Alors voyons le texte, page 16. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir expliqué justement cette histoire du démon qui sort de la maison, qui cherche à y revenir avec cet esprit plus méchant que lui, a une conclusion un peu spéciale. Il dit, c'est ce qui arrivera à cette génération très mauvaise. Donc la première chose, parce que c'est la conclusion, les pères se sont posé la question, mais à qui exactement s'adresse cette parabole? De qui parle-t-il quand il parle de la génération très mauvaise? Eh bien, les pères insistent, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « c'est ce qui arrivera à cette génération très mauvaise ou à cette génération criminelle », il ne parle pas des hérétiques ou des autres hommes, mais il parle du peuple juif. Donc le peuple juif était ami de notre Seigneur Jésus-Christ, ami du Messie qui allait arriver, qui était déjà indiqué, annoncé par les prophètes, le rejette, le crucifie, et donc ils sont rejetés par lui, justement à cause de cet abandon de notre Seigneur Jésus-Christ. On a le texte des Pères, au de la page 16, la conclusion de cette parabole, c'est ce qui arrivera à cette génération criminelle, nous force de l'appliquer non aux hérétiques ou à n'importe quels autres hommes, mais au peuple juif. Si nous voulons que l'ensemble de ce passage ne reste pas vague, indéterminé, susceptible de sens divers, et ne perde de sa clarté par des interprétations sans fondement, mais qu'il forme un tout parfaitement en rapport avec les antécédents et les conséquences. On voit très bien que les juifs sont très fermes contre l'apostasie du peuple juif. Alors, je tiens à faire une petite remarque qui me semble importante. Que les juifs aient une responsabilité énorme dans le déicide, le meurtre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est absolument évident. Mais l'Église n'a jamais toléré pour autant l'antisémitisme, attention. L'antisémitisme, c'est-à-dire être contre le juif parce qu'il est juif, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Strictement parlant, je ne pourrais pas donner l'absolution à quelqu'un qui me dirait « je suis contre les juifs parce qu'ils sont juifs » ou « je suis contre les musulmans parce qu'ils sont musulmans ». En tant que « comme », on n'a pas le droit d'être contre eux. On a le droit de s'en protéger, c'est autre chose. Il faut se protéger de l'islam pour éviter de perdre nos familles et de perdre nos âmes. Il faut se protéger du judaïsme pour éviter de nous faire manger tout cru par eux. Mais on n'a pas le droit pour autant d'être antisémite. L'antisémitisme a toujours été condamné par l'Église. Il ne faut pas oublier. C'est ce que je dis tout le temps aux gens qui me disent « oh, t'es un antisémite ». Je dis, mais non, le Dieu que j'adore, qui descend tous les jours entre mes mains sur l'autel, dans sa nature humaine, était de race juive. Hein? On n'est absolument pas contre la race en tant que telle, même si c'est un mot qui paraît le plus gros de prononcer aujourd'hui. Donc, l'antisémitisme, comme toute forme de racisme d'ailleurs, est condamné par l'Église, attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut, évidemment, aller accepter toute la misère du monde dans nos pays pour que le pays soit complètement détruit. Il faut du bon sens, c'est évident. Alors, deuxième paragraphe de la page 16, là, j'ai bien expliqué ces textes qui sont très importants. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les pères, sur cette parabole. L'esprit impur, donc, puisque notre Seigneur parle d'un esprit impur, ce n'est pas n'importe quel démon, c'est l'esprit impur qui sort d'un homme. Cet esprit impur, c'est celui des Juifs, lorsque la loi leur fut donnée, et lorsqu'ils l'eurent chassé, il a erré dans les solitudes des nations, comme indique la parole suivante, il va par des lieux arides. Alors, les pères se sont posé la question, mais quels sont ces lieux arides, en opposition avec ce qu'on appelle les lieux humides? Donc, les lieux arides, il y a plusieurs explications des pères. Donc, pour comprendre comment les pères expliquent le mot lieu aride, il faut comprendre d'abord ce qu'ils disent sur les lieux humides. Les lieux humides sont pour les pères les âmes qui sont attachées aux concupiscences. Ils sont attachés à la terre, à concupiscence de la chair, dans le mauvais sens, les pénétrant de ses eaux corrompues, les rend molles, sans cohésion, et le démon y imprime d'autant plus profondément les traces de son iniquité qu'il marche dans ses âmes comme sur une terre détrempée et sans consistance. Donc, les lieux humides, donc, sont les âmes des hommes attachés à la terre, ici-bas. Donc, la concupiscence de la chair rend l'âme de celui qui est attaché aux trois concupiscences, la chair, les yeux et l'orgueil, va rendre cette âme extrêmement faible. Elle va venir toute molle, donc incapable de résister au coup. Au contraire, les lieux arides, donc en opposition, sont les cœurs des fidèles, d'après les pères, qui, après avoir été purifiés de la mollesse des pensées dissolues, dans les trois concupiscences, sont explorés par l'ennemi perfide de notre salut qui cherche à y fixer son séjour. Mais il s'éloigne des âmes chastes et ne peut trouver que dans le cœur des méchants un repos qui lui soit agréable. C'est pour cela que le Seigneur ajoute, il ne le trouvera pas. Vous voyez donc, les lieux arides représentent justement les âmes qui veulent se débarrasser des trois concupiscences et qui lutte contre cette mollesse entraînée par les trois concupiscences. Dans l'Écriture sainte, le mot latin mollesse représente, surtout dans saint Paul, représente tous les gens qui ont des vices contre nature, en fait. Ce qu'on appelle les mollesses, donc les sodomites et les gens comme eux. D'autres pères disent, avec une légère variante, que les lieux arides sont les cœurs des gentils qui n'ont jamais été arrosés par les eaux salutaires des Saintes Écritures. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, donc, la meilleure façon d'expliquer ça, donc ces lieux arides, dans le texte ici, donc l'esprit impur qui sort d'un homme et qui erre dans les lieux arides cherchant du repos, donc ça représente le démon qui a quitté l'âme dans lesquels il vivait, et il va chercher une âme qu'il accepte de nouveau. Donc il va aller chercher parmi ceux qui sont autour, les gens qui sont autour, et il n'arrive pas à y rentrer. Pourquoi ? Parce que autour de lui, les âmes ont mis les concupiscences dehors. Les concupiscences n'étant plus dans ses âmes, le démon n'a plus d'entrée officielle dans ses âmes. Si au contraire quelqu'un est à fond dans les concupiscences des yeux, de la chair ou de l'orgueil, toutes les portes de la maison sont grandes ouvertes et le voleur peut rentrer et tout prendre quand il le veut. C'est l'image, si vous voulez, des pêcheurs. Donc, après la conversion des gentils, c'est-à-dire la nouvelle Pâque Pentecôte de l'Église, le démon ne trouvant plus de repos dans ses âmes qu'il a dû abandonner, dit « Je reviendrai dans la maison d'où j'étais sorti, donc chez les Juifs que j'avais quittés en premier lieu. » En y revenant, il trouve cette maison vide, nettoyée et parée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, les pères expliquent que cette maison vide, nettoyée et parée, c'est le temple des Juifs qui était devenu vide parce que le Christ n'y demeurait plus. Alors, ainsi, de même que dans Isaïe, le prophète Isaïe, sept esprits de vertus différentes viennent se reposer sur la fleur de la tige de Jessé, c'est que la première explication des sept dons du Saint-Esprit, on la trouve dans Isaïe. Donc, de même à l'opposé, nous voyons un nombre égal de vices consacrés dans la personne du démon. Donc, c'est les sept péchés capitaux d'un côté contre les sept dons du Saint-Esprit. C'est donc avec dessein que Jésus dit au démon qu'il prend sept esprits avec lui à cause de la violation du sabbat ou à cause des péchés mortels qui sont contraires aux sept dons du Saint-Esprit. Donc il y a l'opposition entre la vie dans le péché, où on vit avec les sept péchés capitaux, représentés par ces sept démons, et au contraire la vie avec les sept dons du Saint-Esprit de celui qui a pu mettre le démon dehors. Lorsqu'un homme se convertit à la foi, donc le démon, chassé de son âme par le baptême, chassé de l'âme dans laquelle il vit par le baptême, parcourt les lieux arides, c'est-à-dire les cœurs des fidèles. Mais les cœurs des fidèles, qui ne sont plus détrempés par les trois concupiscences, n'acceptent plus le démon, et donc le démon, il tourne un peu partout pour essayer de retrouver une âme qu'il accepte, et ne pouvant pas retrouver ses âmes parmi les convertis, les gentils convertis, disent les pères, il va retourner dans la maison qu'il avait auparavant. Il rentre dans la maison où il était auparavant, Et cela représente le fait que le démon va revenir habiter dans le cœur des Juifs pour les empêcher de se convertir, empêcher leur conversion. Alors pour Saint Grégoire, j'ai cité plusieurs pères parce qu'il y a plusieurs explications selon les pères, elles sont toutes magnifiques. Saint Grégoire dit « Les lieux arides et sans eau sont le cœur des justes. La règle forte et sévère qui s'impose dessèche dans leur âme les eaux des concupiscences charnelles. » Donc j'ai expliqué, le lieu aride, les lieux arides représentent les lieux qui ne sont plus contaminés par les trois concupiscences. Au contraire, les lieux humides, je viens de l'expliquer déjà, sont les âmes qui sont attachées à l'esprit d'ici-bas, au monde. L'âme attachée au monde est un lieu humide. Et le démon aime ces lieux humides parce que l'humidité représente justement les trois concupiscences. Et un démon est comme chez lui dans une âme qui suit les trois concupiscences. De même donc, disent les pères, qu'un homme en exil erre parmi les lieux arides et déserts. Ainsi, le démon expulsé par la loi de Dieu d'un homme, c'est-à-dire des Juifs qui étaient le peuple de Dieu, parmi lesquels Dieu demeurait se manifester par les prophéties et les miracles, et ceux-ci errent dans les lieux déserts et cherchent le repos. Faute d'orthographe, hein, qu'il faut que je corrige. Exil. Je m'excuse pour ces fautes d'orthographe. Je ne vois pas toujours. Quand je tape les textes, je trouve après. Donc, c'est un peu une leçon que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ quand on se convertit. Je le dis souvent, convertis par les retraites, des gens qui demandent le baptême, tout simplement, qui viennent faire la retraite, qui sont des païens, qui sortent de la retraite et qui demandent le baptême. Je ne les baptise pas immédiatement en général, sauf si je les connaissais déjà avant, mais je les préviens en disant attention, hein, vous voulez être baptisé, je viens vous baptiser, mais vous allez avoir beaucoup plus de tentations après qu'avant. Vous serez plus fort pour lutter contre les tentations parce que vous aurez la grâce des sacrements, la pénitence et la sainte communion, grâce que vous n'avez pas actuellement. Mais le démon va être furieux, va s'opposer à votre conversion, va tout faire pour vous empêcher de vous convertir. Regardez dans les confessions de saint Augustin, les difficultés qu'a eu saint Augustin pour se convertir, quitter les femmes avec lesquelles il vivait plus ou moins. Et il raconte qu'il entendait les voix de ces femmes qui disaient, qui chuchotaient à son oreille la nuit en disant « Mais qu'en vas-tu faire sans nous? Comment vas-tu pouvoir vivre sans nous ?» Il a fallu toute la patience de saint Ambroise, l'évêque de Milan, pour obtenir finalement la grâce du baptême pour saint Augustin. Si le démon donc voit que vous méprisez la grâce de Dieu, il retourne avidement chez vous tout de suite. Mais votre maison, si elle a été vidée, nettoyée, préparée et ornée pour recevoir le Christ, alors à ce moment-là, le démon ne peut pas y rentrer. Et donc, le démon va donc chercher, disent les pères, sept démons pires que lui, joyeusement revient dans votre âme, et pour s'assurer qu'ils ne sont pas de nouveau chassés de cette maison, ils vont y provoquer le blasphème contre le Christ. Sa doctrine et ses miracles, disant que c'est par Belzébub qui chasse les démons, pouvant ainsi le crucifier de nouveau. Vous voyez, donc la situation d'un converti qui retombe dans sa fange devient pire que la situation précédente. Ça, il faut faire très attention. L'Écriture sainte parle de la truie qui retourne à son vomi. C'est un peu ça. La truie qui retourne à son vomi. C'est-à-dire l'âme qui s'est convertie, qui retourne dans la fange du péché en n'étant pas fidèle au baptême. La grâce du bon Dieu, j'avoue que la plupart des adultes que j'ai baptisés ces derniers temps, je ne sais pas combien j'en ai baptisé, ces dernières années j'ai dû baptiser 70 adultes, quelque chose comme ça. À ma connaissance au moins, il n'y en a que deux qui n'ont pas persévéré. Deux qui n'ont pas persévéré. Et qui sont retournés, une était protestante, s'est convertie, et après une retraite, et retournée au protestantisme, je pense, parce qu'elle n'avait pas quitté, coupé avec tous ses amis protestants. Et une deuxième dame qui m'avait demandé le baptême, donc, pour certaines circonstances, je l'avais baptisée assez vite, et elle n'a pas persévéré, malheureusement. Maintenant, elle ne veut même plus me voir, donc je ne peux plus rien faire pour l'aider, sinon prier pour elle. Donc Dieu va punir ce peuple qui revient aux démons en refusant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous l'ai déjà dit, les pères de l'Église expliquent que ici notre Seigneur fait allusion au peuple juif en parlant de ce qui arrivera à cette génération criminelle et mauvaise. Donc Dieu punira ce peuple par la destruction totale de la ville de Jérusalem et du peuple par Titus. Et vous vous retrouverez sans Dieu, ni Messie, ni loi, ni temple, ni sacrifice, ni foi, afin que vous compreniez votre propre perfidie et aveuglement. Le démon agite ainsi à cause de la rancune qu'il porte contre les hommes qui peuvent obtenir le bonheur du ciel dont lui-même a été exclu. Vous voyez, la jalousie du démon contre l'âme catholique qui peut vivre en état de grâce. Donc, et là, il y a une très belle phrase des pères à cause de cette haine de Dieu, ne pouvant blesser Dieu lui-même. Dieu n'est pas atteignable directement par le démon. Donc le démon va donc blesser l'homme créé, créature et image de Dieu. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Image de Dieu parce que il a une âme sur la, une âme spirituelle, une création du bon Dieu qui anime le corps. Et ceux qui sont en état de grâce sont en plus une qualité supplémentaire. Ils ne sont pas simplement créés à l'image, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Et donc, le démon va attaquer les convertis qui sont créés maintenant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il ne peut pas enlever l'existence de l'âme dans ce corps qui est devant lui. Donc, tout pécheur, même quelqu'un qui n'est pas catholique, même un juif ou un musulman, il est créé à l'image de Dieu dans le sens qu'il a une âme. Tout le monde a une âme. Tous les hommes ont une âme. Mais que va faire le démon? Il va tout faire pour détruire la ressemblance avec Dieu, c'est-à-dire l'état de grâce. Et quand il détruit l'état de grâce dans une âme qui a été régénérée par le baptême, eh bien à ce moment-là, c'est vraiment la truie qui retourne à son vomi. Hein? Donc à cause de cette haine de Dieu, ne pouvant blesser Dieu lui-même, le démon va donc blesser l'homme, créature et image de Dieu. Et donc lorsqu'on a perdu la ressemblance avec Dieu par le péché mortel, si vous voulez, on change d'image. On avait dans notre âme la réflexion sur le miroir de notre âme, de notre Seigneur Jésus-Christ. On tombe dans l'état de péché mortel et au lieu de refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, le miroir de notre âme va se mettre à refléter le démon. C'est épouvantable. Et donc, il faut se confesser plus vite, surtout pas rester comme ça. Souvent, les gens me téléphonent, ils me disent, monsieur l'abbé, je suis complètement découragé, je suis retombé dans le péché, je vis dans le péché mortel de nouveau, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais allez vous confesser, mais je me suis déjà confessé la semaine dernière et je suis retombé. Ça fait rien, allez vous reconfesser, augmentez la contrition, vérifiez que vous ne gardez pas des occasions prochaines volontaires de péché mortel, mais allez vous confesser. Tant que vous ne confessez pas, le démon est chez vous. Mais j'ai pas de prêtre à ma disposition, j'ai que des prêtres de l'église de Vatican II qui sont même pas prêtres, parce qu'ils ont tous été ordonnés après 68, au moment où ils ont changé le rituel d'ordination des prêtres et consécration des évêques, donc j'ai plus rien. Je dis à ce moment-là, mettez-vous au pied de votre crucifix, faites tout votre cœur l'acte de contrition et l'acte de charité. Pour obtenir du bon Dieu avec sa grâce, justement la grâce d'un acte de contrition parfaite qui efface tous les péchés. Et puis après se confesser au plus vite. J'ai connu des gens qui font parfois des centaines de kilomètres pour se confesser. Parce qu'ils ont compris ce que c'est que le péché mortel. Et je peux vous assurer que quand quelqu'un a fait 200, 300 kilomètres pour venir se confesser, je donne l'absolution de suite. Hein. Parce que le simple fait qu'il ait fait 300 kilomètres aller pour venir se confesser, qu'il y en a encore 300 qui attendent pour qu'il rentre chez lui après la confession, ça prouve qu'il regrette vraiment ce qu'il a fait. Alors mystiquement, en bas de la page 16, les lieux arides, donc, sont les âmes des gentils dans lesquels, par la grâce de Dieu, l'humidité de la concupiscence a séché. Oui, on trouve la même idée. Les lieux humides représentent les lieux dans lesquels la concupiscence est reine. Et donc, le travail de conversion, c'est un combat de tous les jours. Hein, c'est le combat spirituel. Hein, c'est le titre du livre de Scupoli. Je vous conseille beaucoup. C'est un excellent livre de spiritualité, le combat spirituel par Scupoli, et qui montre bien justement que ce combat est un combat de tous les jours, de toutes les heures jusqu'à la mort. Il n'y a personne, disent les pères, qui n'ait fait plus de progrès en religion que ceux qui sont dans les monastères. Mais il ne peut y avoir d'hommes pires que les moines qui sont tombés. Pourquoi? Parce que plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Celui qui tombe de très haut va se faire beaucoup plus mal que celui qui tombe de simplement 50 cm. On le voit très bien dans les ordres religieux qui étaient très très élevés. Je pense que l'ordre religieux, s'il y avait certainement une plus grande puissance sur la terre, dans l'histoire de l'humanité, on le voit très bien, c'est l'ordre des jésuites. Mais regardez ce qui reste des jésuites actuellement. Il n'y a pratiquement plus un seul jésuite dans le monde entier. Pratiquement plus. Les jésuites ont complètement été décimés par Vatican II parce qu'ils étaient extrêmement puissants au niveau de la vie spirituelle. Ils avaient une vie spirituelle énorme, très importante, par surtout le travail d'enseignement qu'ils faisaient dans les universités. Et ils ont abandonné ça, ils ont tout perdu, ils sont tombés très haut. Quand on tombe de très haut, ben on ne se casse pas simplement une jambe, on se tue. C'est évidemment ce qui s'est passé. Que celui qui est juste le devienne encore davantage, que celui qui est dégoûtant le devienne encore plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui suit notre Seigneur Jésus-Christ doit augmenter dans la vie spirituelle. Celui qui n'avance pas, il recule. Mais au contraire, lorsque quelqu'un est dans le péché mortel, le démon ne va pas s'arrêter là. Il va vous pousser à commettre d'autres péchés mortels parce qu'il sait que plus on a de péchés mortels sur la conscience, plus notre âme devient lourde et plus il est difficile qu'elle se relève pour s'approcher de la charité du bon Dieu par la confession. En bas de la page 16, une note des pères, là, Lucifer était le plus beau de tous les anges, mais devint le pire des démons. Judas, l'apôtre qu'il était, devint un apôtre, d'apôtre qu'il était, devint un apostat, celui qui trahit le Christ. Ainsi firent tous les grands hérétiques, Nestorius, Tychès, Pélage, Arius, Luther, Calvin, on peut rajouter Bergoglio et toute sa clique, leur compagnon, qui étant moine et prêtre, devint apostat et hérésiarque. Comme on dit vulgairement, le meilleur vin fait le plus aigre vinaigre. Plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Passons à la page 17 pour terminer ce chapitre 12 de Saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères, se tenant dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici que votre mère et vos frères sont dehors et vous cherchent. » Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Alors, voyons un petit peu comment les pères expliquent ce passage. D'abord, faire très attention à ce mot « frère » qui est toujours utilisé par les témoins de Jéhovah, par tous les protestants de tout poil, qui disent, voyez, notre Seigneur Jésus-Christ parle de ses frères. Et donc, puisqu'il y a des frères, c'est que notre Sainte Vierge Marie n'a pas conservé la vertu de chasteté et qu'elle n'était plus vierge, puisqu'elle a eu d'autres enfants. Absolument pas. En hébreu, le mot frère est traduit par tout membre de la famille. Donc les cousins et cousines d'une personne sont appelés mes frères et mes sœurs. Et ces personnes donc ne sont pas proprement appelées les frères du Christ ni les enfants de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph ou de Sainte Anne, car le mot signifie les cousins ou les relations du Christ ou une expression commune chez les Hébreux. Nous devons savoir que celui qui est le frère ou la sœur du Christ par la foi devient sa mère par la prédication infusant le Seigneur dans le cœur de ses auditeurs. Donc, à partir du moment où j'enseigne, je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, je vis en état de grâce, je prêche notre Seigneur Jésus-Christ, je deviens frère ou sœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il semble, d'après les pères, que celui qui est venu dire à notre Seigneur Jésus-Christ que sa mère et ses frères se tiennent dehors et cherchaient à lui parler, donc que celui qui vient lui annoncer cette nouvelle ne me paraît pas l'avoir fait avec simplicité et naturellement, mais pour lui tendre un piège et voir s'il sacrifierait aux affections de la nature une œuvre toute spirituelle. Il n'a donc pas renié sa mère, comme le prétendent Marcion et les manichéens, pour nous faire croire que sa naissance était qu'imaginaire, mais il a voulu montrer qu'il préférait les apôtres à ses parents, pour nous apprendre nous-mêmes les affections de l'esprit, pour nous apprendre à préférer nous-mêmes les affections de l'esprit aux affections de la chair. L'âme est plus importante que le corps. Vous voyez? Donc par l'état de grâce, nous devenons enfants de Dieu, et devenant enfants de Dieu, eh bien nous devenons les frères et les sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ, spirituellement et mystiquement parlant. Et ces passages sont très importants. On devient frère de notre Seigneur Jésus-Christ par le baptême. Et donc faites très attention à ne pas vous laisser contaminer par les hérésies de Bergoglio. Quelqu'un de la fraternité Saint-Bénis m'a dit récemment, mais il n'y a aucun texte hérétique dans le discours de Bergoglio. Mais il n'a jamais écouté Bergoglio, c'est pas possible cette personne-là. Quand Bergoglio dit en parlant des musulmans, les musulmans sont les enfants de Dieu, je m'excuse en disant cela, Bergoglio nie le bénéfice du baptême et la nécessité du baptême. Moi, j'ai appris quand j'étais gamin de 4 ou 5 ans qu'il fallait baptiser les enfants le plus vite possible parce que par le baptême, on devenait enfant de Dieu. Et donc, si j'étais pas baptisé, j'étais pas enfant de Dieu. Donc, un musulman qui n'est pas baptisé ne peut pas être un enfant de Dieu. Donc, quand Bergoglio sort que les musulmans sont les enfants de Dieu, sans conversion donc, non seulement c'est une bêtise énorme, c'est une hérésie monumentale. Alors, s'il veut années qui se donne, mais qui nous emmène pas avec lui, donc attention, ne pas suivre toutes ces horreurs de Bergoglio et de ses comparses. Nous allons commencer, il reste encore un petit peu de temps, nous allons commencer le chapitre 13 de Saint Matthieu à la page 18. Donc, je vous conseille beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, parce que c'est important, quand on finit un chapitre comme ça, relisez, ceux qui ont un petit peu de temps à la maison, relisez lentement le chapitre qu'on vient d'expliquer. Vous voyez ? Et déjà, si vous avez bien écouté le cours, même si le cours n'est pas parfait, moi je n'ai pas l'intention d'être un professeur professionnel, hein, je fais ce que je peux, mais tout ce que je vous donne, c'est pas ma doctrine, je n'en ai pas de doctrine. C'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, celle des pères de l'Église, celle des pères de l'Église. Celui qui a l'esprit des pères de l'Église, il a l'esprit d'Église, tout simplement. Celui qui refuse d'expliquer l'Écriture sainte à partir des pères de l'Église n'a pas l'esprit d'Église. C'est aussi simple que cela. Donc, relisez lentement le texte de l'Évangile, du chapitre de l'Évangile qu'on vient d'expliquer. Et même si vous avez un peu plus de temps, même si vous lisez une demi-page par jour, relisez les textes du polycopier, justement, pour vous imprégner de cette doctrine, qui est celle de l'Église. Alors, page 18. Chapitre 13 de Saint Matthieu, voyons d'abord les 9 premiers chapitres. Donc la parabole du semeur. Ce même jour, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer, et des foules nombreuses s'assemblèrent autour de lui, de sorte qu'il monta dans une barque et s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en parabole en ces termes. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce que la terre n'avait pas de profondeur. Mais le soleil s'étant levé, elle fut brûlée, et comme elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba dans les épines, et les épines grandirent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre et elle donna du fruit, quelques grains rendant 100 pour 1, d'autres 60, d'autres 30. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Et cette parabole, la plus belle de l'Écriture sainte, montre à quel point dans la création de Dieu, l'égalité n'existe pas. Chaque âme est différente. Donc cet endroit qui va recevoir la graine c'est la grâce sanctifiante, du bon Dieu. Donc, ces endroits sont tous différents. Il y en a qui ont un cœur dur. Donc, ils vont recevoir la parole de Dieu comme si leur âme était un chemin. Et donc, la parole de Dieu tombe sur une terre dure et les oiseaux du ciel arrivent, viennent manger la graine et tout disparaît. D'autres âmes, au contraire, ont un cœur qui est comme un endroit pierreux, il n'y a pas de terre. Donc, la graine va commencer à germer et tout de suite va être brûlée parce qu'il n'y a pas de racines. Il y en a qui ont une âme qui est représentée par les épines. Il y a plein d'épines, c'est-à-dire plein de l'esprit du monde est là-dedans. Et donc ces épines vont étouffer la graine. Il y en a qui, heureusement, ont une âme qui est bien, bien préparée à recevoir la grâce du bon Dieu. C'est la bonne terre. Mais même dans cette bonne terre, tout le monde ne reçoit pas, la grâce du bon Dieu de la même façon. Il y en a qui vont recevoir la grâce du bon Dieu de telle façon que le fruit de la grâce va donner du 100 pour 1, et d'autres ne vont donner que du 60 pour 1, et d'autres que du 30 pour 1. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bon Dieu, qui connaît tout ça, il sait de quoi cette âme est capable. Et si une âme est capable, ne peut donner que du 60 pour 1, le bon Dieu va demander du 60, il ne va pas demander du 100 à une âme qui ne peut donner que du 60 pour 1. Mais si une âme est capable de donner 60 pour 1 et qu'elle ne donne que 30, ben c'est la parabole des talents qui s'apparente aussi à celle-ci. Et bien la parabole des talents montre bien que celui qui refuse de faire fructifier le talent que le bon Dieu lui a donné, ben il va être jeté dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. Donc que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères sur cette parabole qui est très connue, qui est splendide. Donc il y a beaucoup de sens cachés pour arriver à comprendre ce que représente le chemin, les endroits pierreux, les épines, la bonne terre, etc. Donc les cœurs des infidèles, disent les pères, longtemps dominés par l'orgueil et l'incrédulité, sont comparés aux flots amers et soulevés de l'océan. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ donne cette parabole assis au bord de la mer. Quant à la maison du Seigneur, qui ne sait que c'était la Judée qu'il était devenu par la foi. On dit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier verset du chapitre 13, était sorti de sa maison. La suite du récit donc nous explique pourquoi notre Seigneur s'assied dans la barque tandis que le peuple reste sur le rivage. Il allait parler en parabole et en agissant de la sorte, il nous apprend, d'une manière figurée, que ceux qui sont hors de l'Église ne peuvent avoir aucune intelligence de la parole divine. Donc il y a tous ceux qui écoutent notre Seigneur Jésus-Christ avec l'intention de se convertir, et puis il y a ceux qui écoutent notre Seigneur Jésus-Christ sans avoir l'intention de se convertir. C'est les pharisiens, par exemple. Et puis il y a ceux qui refusent de l'écouter. Les pharisiens qui se réunissent et qui cherchent à trouver un moyen de faire taire notre Seigneur Jésus-Christ, qui prépare déjà sa mort. Donc cette phrase des pères est très importante. Ceux qui sont hors de l'Église ne peuvent avoir aucune intelligence de la parole divine. Hein? Souvent, les païens qui viennent en retraite, qui ne sont pas encore baptisés, me disent « Monsieur l'abbé, j'ai beaucoup de mal à comprendre certaines choses, même dans l'explication des retraites que vous donnez, je ne comprends pas tout. » Je leur dis « Mais attendez, il vous manque le baptême, vous ne pouvez pas encore tout comprendre. Il faut demander la grâce du baptême et quand vous aurez reçu cette grâce, à ce moment-là, vous pourrez comprendre beaucoup de choses. » Donc cette barque sur laquelle notre Seigneur Jésus-Christ se tient, le texte dit, les foules nombreuses s'assemblèrent autour de notre Seigneur, de sorte qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Donc cette barque représente l'Église, une sainte catholique et apostolique. La parole de la vie qu'elle renferme dans son sein est prêchée à ceux qui sont au dehors, mais semblable au sable stérile, ils ne peuvent la comprendre. Donc il y a ceux qui vont être amenés à la conversion, à ceux qui vont refuser la conversion. Donc ils montent dans cette barque et s'y assied au milieu de la mer pour figurer que le Christ devait monter par la foi dans les âmes des gentils, rassembler son église au milieu de la mer. C'est-à-dire au milieu des peuples qui devaient le contredire. Cette foule qui se tient sur le rivage et qui n'est ni sur la mer ni dans la barque nous représente ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui sont encore séparés par la foi des flots de la mer, c'est-à-dire des réprouvés, sans être encore pénétrés des mystères du royaume des cieux. Et Dieu, sa grâce, justement, va amener ces gens qui sont encore trop loin de lui, il va en quelque sorte, mystiquement parlant, les faire monter dans la barque. Monter dans la barque, duc inalto, monter plus haut. Et lorsque ces âmes montent dans la barque, elles montent dans la barque, cette barque c'est l'Église, comment est-ce qu'on monte dans la barque? On monte dans la barque par le baptême. Et une fois qu'on est dans la barque, à ce moment-là, on est en quelque sorte séparé des rivages de la terre, des rivages du monde, des trois concupiscences de la terre, à savoir la concupiscence de la chair, des yeux et l'orgueil, et du coup, l'âme devient beaucoup plus forte. Alors les pères vont expliquer en long, en large et en travers justement la signification de tous ces mots qui sont utilisés dans la parabole du semeur. beaucoup de saints ont repris ces textes des pères pour justement expliquer la liberté, l'union entre la liberté de l'homme et la toute-puissance de la grâce du bon Dieu. Comment associer les deux? C'est un grand, grand mystère de la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant par sa grâce, mais en même temps, nous acceptons librement la grâce du bon Dieu. La grâce du bon Dieu ne va pas pénétrer dans une âme si l'âme ne veut pas ouvrir la porte à cette grâce. Donc, je vous lis ici les explications données par les pères. Le chemin, donc la première partie de la semence, tombe sur le chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Pourquoi il n'y a pas de terre sur le chemin? Il y a des pierres, c'est tout. Le chemin, c'est l'âme pleine de zèle, foulée et desséchée sous les pas des mauvaises pensées. La pierre, c'est la dureté d'une âme audacieuse. Donc l'âme qui se coupe de notre Seigneur Jésus-Christ, qui compte beaucoup trop sur elle-même, beaucoup plus sur elle-même que sur notre Seigneur. La terre, au contraire, dans laquelle va tomber la bonne graine, c'est la douceur d'une âme obéissante. Le soleil qui va dessécher la plantule qui commence à pousser, c'est l'ardeur de la persécution qui sévit. La profondeur de la terre, c'est la droiture de l'âme formée par les célestes enseignements. Donc plus la terre est profonde, plus les enseignements célestes ont eu leur effet sur notre âme. Les oreilles, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Les oreilles pour entendre, ce sont les oreilles de l'âme. Ils doivent servir à l'intelligence et à l'accomplissement des commandements du bon Dieu. Beaucoup de gens sont des sourds spirituellement parlant. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, plusieurs fois dans l'Évangile, va rendre l'ouïe au sourd. Le sourd spirituellement parlant, la surdité spirituelle représente celui qui se bouche les oreilles pour pas entendre notre Seigneur Jésus-Christ. Comme les pharisiens qui veulent même pas écouter notre Seigneur Jésus-Christ qui prêche dans la barque et qui se sauvent en courant parce qu'ils veulent pas entendre notre Seigneur Jésus-Christ et ne pas risquer de devoir changer leur vie. C'est triste, mais c'est très fréquent. Je l'ai peut-être déjà dit, je le vois très bien ici, à Padiès, dans le petit village où j'habite, dans le Tarn, comment les gens d'un mot ici, ils sont gentils, aimables avec moi, mais ils gardent leur distance parce qu'ils veulent surtout pas qu'un contact régulier avec le prêtre amène ces âmes à se convertir complètement, à retrouver l'usage de la pratique religieuse, parce qu'ils sont tous catholiques, mais non pratiquants. La semence est la parole de Dieu, ou la grâce sanctifiante, ou l'évangile, sa prédication. La terre dans laquelle va tomber la semence représente le libre arbitre de tous les auditeurs. Autre explication, d'après d'autres pères, le soleil est la grâce prévenante, illuminant et enflammant le libre arbitre pour qu'il reçoive la parole de Dieu afin de produire les fruits de charité, toutes les vertus. J'ai expliqué que ce libre arbitre doit travailler en étroite coopération avec la grâce du bon Dieu. La grâce est toute puissante, le libre arbitre est par définition libre. Et donc personne ne se convertit de force, forcé par la providence du bon Dieu. Même dans des conversions, comme la conversion de saint Paul par exemple, ou celle de saint Matthieu, viens, suis-moi, et saint Matthieu se lève et suit, il y a la toute puissance de la grâce du bon Dieu qui est claire, mais en même temps, La responsabilité de l'âme qui volontairement, avec la grâce du bon Dieu, qui est une grâce efficace de Dieu, se convertit pour se rapprocher de notre Seigneur. La pluie qui va tomber, qui va donner, faire tomber, donc de faire permettre à la graine de grandir et de fructifier, la pluie représente la grâce. Donc la semence et la pluie, c'est la même chose, c'est la grâce du bon Dieu qui irrigue et pousse aux bonnes actions et mouvements du libre arbitre. Bon. Mais il y a aussi le vent qui s'en mêle. Le vent représente les tentations qui, en agitant les âmes, les oblige à avoir des racines plus profondes et les raffermit. Donc les tentations sont parfois utiles. Parfois utiles pour obliger justement la plantule à croître la longueur de ses racines, à approfondir ses racines, qu'elles rentrent plus en plus profondément dans la terre, pour être plus fermes, justement. Et si les racines sont bien profondes, eh bien, on verra à ce moment-là que ces plantules seront beaucoup plus résistantes aux tentations. J'ai vu, quand j'étais en Australie, je voyais par exemple dans le désert les eucalyptus qui vivaient dans des zones où il ne pleuvait presque jamais. Eh bien, ces arbres arrivaient à survivre quand même parce qu'ils avaient des racines qui s'enfonçaient très profondément dans la terre et qui arrivaient à les chercher dans les nappes phréatiques, littéralement, qui sont beaucoup plus profonde, allaient chercher l'humidité et l'eau dont elle avait besoin. Et ces arbres arrivaient à survivre dans des endroits où pratiquement il pleuvait 3-4 fois par an. Voyez. Donc la pierre sur laquelle va tomber la grâce, la semence, la pierre représente la chair, les épines c'est le monde. Notre Seigneur explique bien cela. Les épines, c'est le monde. Si vous voulez, les mondes, les épines qui vont justement piquer constamment l'âme qui est au milieu des épines, elle peut plus faire un mouvement. Les épines sont partout et piquent de tous côtés ce pauvre corps qui est dans les épines. Ça représente les concupiscences qui nous attaquent de tous côtés. Donc la pierre représente la chair, les épines, le monde, le chemin, l'habitude d'une vie mondaine et licencieuse. Et les oiseaux déserts qui vont venir manger la semence. Les oiseaux déserts représentent les démons, grands dévoreurs des âmes, qui déracinent de l'esprit et de la mémoire qui a été prêchée pendant qu'ils repoussent ceux qui sont sur les bas-côtés. C'est-à-dire ceux qui sont donnés aux habitudes, aux affaires du monde, ainsi que ceux qui se promènent paresseux et curieux au lieu de chercher à pénétrer la doctrine entendue. Donc le chemin représente ceux qui, au lieu de s'arrêter pour écouter notre Seigneur Jésus-Christ, passent leur chemin, passent justement à côté et n'écoutent pas parce qu'ils ont d'autres choses à faire. D'accord ? Et donc, la semence qui tombe aussi sur les épines du bas-côté, les épines vont donc... Il y a un peu de terre, un peu d'humidité, donc la plantule va commencer à apparaître, mais va mourir parce qu'elle n'a pas d'espace pour se développer. Ça représente ceux qui sont complètement donnés aux affaires du monde, donc aux trois concupiscences, et à cause des concupiscences, ils ne peuvent pas se développer. Le chemin représente aussi un esprit usé, desséché par les mauvaises pensées. Un tel esprit ne reçoit pas la doctrine de l'Évangile qui s'oppose à sa luxure. Il ne perçoit ni ne comprend parce qu'il est totalement occupé par ses sollicitations charnelles. Donc la prédication les laisse donc de marbre. Vous voyez comment les pères, justement, reprennent tous ces textes sacrés pour bien les assimiler et les expliquer aux fidèles. La pierre représente la dureté d'un esprit insolent dans lequel il n'y a aucune douceur de l'âme obéissante. Il n'est sensible qu'aux douceurs des mots entendus, promesses célestes. Mais pour un temps fort court seulement, sans la moindre racine du désir du salut. Dès que le soleil chauffe, la fureur de la persécution, il s'étiole par impatience, car son esprit n'adhère pas fermement à la parole de Dieu, il perd la verdure de la foi. Donc cette âme, si vous voulez, qui s'étiole, mais représente l'âme qui est en train de perdre la foi. La foi n'arrive pas à prendre possession de cette âme parce qu'il n'y a pas de terre, pas de terrain bien préparé. Les pères font remarquer que seul un quart de la semence tombe sur le bon chemin et produira du fruit. Les autres trois quarts de la semence vont périr. La parole de la prédication ne profite donc qu'à bien peu et ne produira aucun fruit chez ceux-là. Et donc tous ceux qui refusent la grâce du bon Dieu, ben, malheureusement, ne pourront pas sauver leur âme. Bon, le quart, c'est déjà pas beaucoup, hein, qu'un quart se sauve. Est-ce qu'il y a un quart des âmes aujourd'hui qui se sauvent ? J'en sais rien. Dieu seul peut répondre à cette question. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a parlé d'une voie large et facile, et que beaucoup nombreux sont ceux qui l'apprennent et qui mènent à la perdition, et que la voie étroite et resserrée, bien peu l'apprennent. Et cette voie étroite et resserrée, elle mène au ciel. Hein, n'oubliez pas que la petite voyante de Fatima disait que les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige en hiver. Comme les flocons de neige en hiver. Les pères de l'Église, voir ce qu'ils disaient. C'est affolant. Ils disent le nombre des âmes qui sauvent, c'est comme les olives qui restent dans un arbre après la récolte. Hein? Bon, il ne faut pas se décourager pour autant, faire attention quand on prêche ces choses-là, parce qu'il ne faut pas non plus pousser les gens en découragement. Mais c'est vrai que quand on voit autour de nous quels sont les gens qui cherchent Dieu. Moi, je le vois. Même très bien, comme je suis en soutane tout le temps, je le vois quand je fais mes courses, par exemple, dans les grands magasins. L'indifférence totale des gens par rapport aux prêtres en soutane. Mais de temps en temps, c'est assez rare, mais ça arrive quand même, je dirais, presque une fois par semaine. Une personne dans ce grand magasin qui va venir vers moi ou qui est tentée de venir vers moi pour me parler. On sent que cette personne est frappée par la soutane. Et parfois, il vient de me demander, vous êtes prêtre ? Mais ça fait tellement plaisir de voir un prêtre en soutane. Ils nous le disent. Alors, il ne faut pas se décourager parce que j'ai remarqué, il m'arrive parfois de retomber plusieurs fois sur ces personnes et j'espère que petit à petit, tout un travail de conversion qui va être commencé par le bon Dieu dans ces âmes. Alors, les pères ont une phrase très belle. Voilà ce que disent les pères. Donc, c'est au milieu de la page 19 sur le polycopier. Pourquoi semer dans les épines, dans les terrains pierreux, sur le chemin? Pour la semence matérielle, ce ne serait pas raisonnable, mais cela est d'une bien plus haute sagesse quand il s'agit des âmes et de la semence spirituelle. Car si la pierre ne peut pas devenir terre, si le chemin ne peut pas ne pas être le chemin, ni les épines des épines dans les régions spirituelles, la pierre peut devenir une terre fertile, le chemin peut ne plus se laisser fouler par les passants, et on peut déraciner les épines. C'est-à-dire la grâce du bon Dieu peut transformer une pierre, un cœur de pierre, en un cœur de chair. Le bon Dieu peut faire saigner une pierre, disent les pères. La pierre peut devenir une terre fertile, le chemin ne peut se laisser fouler par les passants, on peut déraciner les épines. Donc ne jamais, jamais, jamais se décourager, tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Cette transformation dépend de celui qui reçoit la semence et bien sûr dépend d'abord de celui qui donne la grâce. On a besoin d'une grâce efficace pour se convertir. Cette transformation dépend de celui qui donne la semence, qui reçoit la semence. Celui qui sème fait largement ce qui dépend de lui. Sachons, si nous voulons garder la semence divine, mettre en notre âme des clôtures qui séparent le champ du chemin. Sachons nous garder des influences du dehors et ameublir le champ pour que la semence y pénètre. Si nous voulons que cette semence du bon Dieu qui va tomber dans notre âme puisse donner du fruit, il faut empêcher les animaux nuisibles de venir manger la semence. Si on laisse tous les oiseaux du ciel venir s'abattre sur le champ, ils vont manger toutes les graines. Si on laisse les vaches rentrer dans le champ, eh bien, tout va être piétiné, c'est absolument évident. Donc il faut savoir nous garder les influences du dehors et ameublir le champ pour que la semence y pénètre. Donc il y a un travail de préparation des âmes. Que ces textes sont magnifiques. Non, je répète ce texte parce qu'il faut méditer là-dessus. Sachons, si nous voulons garder la semence divine, mettre en notre âme des clôtures qui séparent le champ du chemin. Et des clôtures qui séparent notre âme de l'esprit du monde. L'esprit du monde, un esprit incompatible avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des âmes qui manquent de profondeur, où tout est à la surface. Elles sont faciles à remuer, et à cause de cela, elles acceptent facilement la parole de Dieu. Cette parole y lève rapidement. Mais comme elles n'ont point de racines au-dedans d'elles, elles ne connaissent que les influences du moment, elles ne peuvent trouver des aliments qui feraient grandir en elles la vie nouvelle. Et la première épreuve, tout se dessèche. On le voit, malheureusement, c'est quelque chose d'important dans la tradition. Le petit nombre des gens qui suivent la tradition, surtout dans les milieux célibacantistes, hein, et le problème, c'est la persévérance. Au début, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et tout le monde est content de venir danser autour du feu, comme on dit. Mais lorsqu'il faut aller chercher du bois pour alimenter le feu, il n'y a plus personne. Et j'ai été confronté ces derniers temps par des grosses difficultés avec certains fidèles qui littéralement m'ont laissé tomber comme une vieille chaussette parce qu'ils n'ont pas voulu persévérer. Ils n'ont pas persévéré. Et puis ils sont retournés vers soit l'église de Vatican II, soit... les gens qui reconnaissent, qui veulent absolument reconnaître Bergoglio comme leur pasteur légitime. Et toute la conviction, c'est des vacantistes, toutes ces convictions ont disparu. Voilà, nous allons arrêter là. Je vous conseille de relire par vous-même tous ces textes des pères magnifiques. Donc, relisez pages 18 et 19, ce commentaire des pères. Et je n'ai mis qu'un petit résumé de ce que disent les pères. On va terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.